Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, toujours sans public, mais il va revenir au théâtre de l'Alliance française pour Un masque et la plume consacré à l'actualité du cinéma avec autour de moi Camille Nevers de Libération, Eva Bétan de France Inter, Michel Simon, Michael Simon de Positif et avec le patron des Inrecuptibles, Jean-Marc Lalanne. On parle ce soir de ADN, de Mandibule, Slalom, Manque, mais aussi de trois classiques revisités. Ariane de Billy Wilder, Elle et lui de Léo McCarey et L'homme qui voulut être roi de John Huston dans le courrier agité de la semaine. Eh bien, comme en mai dernier, lorsque j'avais inscrit au programme de l'émission Les Parapluies de Cherbourg, nos auditeurs expriment leur passion ou leur rejet de Jacques Demy. Cette fois, c'est à propos, vous le savez, de Peau d'âne. Alors, il y a les fans, ils sont rares. En tout cas, ceux qui m'ont écrit, hein. Comme Martine Cognon de Lente, affligée par les propos d'Éric Neuhoff. Quel manque de poésie de sa part. Ce film est un enchantement par ses couleurs, ses décors, ses costumes, ses chansons si belles sur le pur amour. Au contraire, Isabelle Trifas est heureuse d'entendre Éric Neuhoff dire ce qu'il a ressenti en voyant ce film. Je l'ai trouvé, nous dit Isabelle Trifas, ennuyeux, ridicule, malsain, pas bien joué. Je ne suis donc pas seul. Ouf, on dirait que c'est un crime de lèse-majesté de ne pas aimer ce film. Quel pied, ajoute Aline Geoffrey, d'entendre Éric désinguer Peau d'âne, ce film insupportable, d'une nunucherie sans nom, d'une laideur et d'une bièvrerie confondante, costume ridicule, chansonnette inepte, et tout ça pourtant avec un casting épatant. Cela relève, nous dit Aline Geoffrey, de la performance. Zora Benouna, qui habite Londres, parle d'un film kitsch, moche et clairement chiant. Merci à Éric, seul contre tous. C'est vrai que ce soir-là, au masque, les critiques étaient très favorables, part Éric, à Peau d'âne, et encore, il n'y avait pas Jean-Marc à la tribune. Merci Éric, seul contre tous, d'avoir remis Peau d'âne à sa juste place, écrit Daniel Brévin. Quand on sait les circonstances psychédéliques d'écriture du film, on pourrait clamer sur tous les toits la drogue, un fléau. Enfin, Marie-Hélène de Lyon, ainsi que M. Flassner, me réprimandent, et ils ont raison, pense sur mon bec. Rosalie Varda, m'écrivent-ils, contrairement à ce que j'ai dit, n'est pas la fille de Jacques Demy, elle est la fille biologique d'Antoine Bourseiller. C'était une erreur de ma part qui est donc ce soir enfin rectifiée. Mais c'est marrant parce que chaque fois que j'ai inscrit finalement cette année un film de Demy, ça provoque les mêmes réactions.
Oui, c'est curieux, ça reste un cinéaste assez clivant. Il a toujours été, il y a toujours eu des gens, des admirateurs fervents.
Encore en 2020.
Mais aussi des gens qui ne supportent pas ça. Je pensais que c'était en voie de disparition et peut-être encouragé par la toxicité d'Éric Neuhoff, ça serait réveille comme ça régulièrement.
La toxicité de notre ami.
Bonne édane à Éric.
Bon, et on commence avec trois films qui auraient dû sortir en salle s'il y avait eu un déconfinement, mais que nous voulons tout de même évoquer. Et on commence avec Mandibule, le nouveau film de Quentin Dupieux, le réalisateur déjanté de Haut Poste et de Ledain, avec David Marseille, Grégoire Ludig, Adèle Exarchopoulos, irreconnaissable, hein, India Air, Manu, c'est Grégoire Ludig, se voit proposer pour 500 euros de récupérer et de livrer une valise. Il vole alors une Mercedes pourrie, très pourrie. Embarque son copain Jean Gab, c'est David Marseille, et il découvre dans le coffre une mouche géante que nos deux pieds nickelés, en un peu plus con, il faut dire la vérité, vont vouloir dresser pour se faire de l'argent. On monte un cran dans l'absurde quand les deux zigotos arrivent dans une villa avec piscine et avec une Adèle Exarchopoulos totalement déjantée après un accident de ski. Seule question valable, et évidemment, ça dure 1h17, c'est court, hein, 1h20. Avez-vous ri, Jean-Marc ?
Oui, beaucoup. Oui, le film m'a assez enchanté. Moi, j'aime de plus en plus les films de Quentin Dupieux. Ses tout premiers films me déconcertaient un peu. J'aimais beaucoup sa période américaine. Je pense que Reality était vraiment un grand film. depuis maintenant 3 films, il est revenu en France. Et pour moi, c'est son film français le plus accompli. C'est aussi le moins dark. C'est-à-dire que c'est complètement déjanté, comme tu l'as dit. C'est-à-dire que le pitch est totalement absurde, surréaliste. Et en même temps, tout le travail du film est de rendre le film extrêmement accueillant, lumineux, joyeux. C'est celui qui a l'énergie la plus positive de tous les films de Quentin Dupieux. À mon avis, c'est
enfin,
peut-être...
le dernier avait une énergie très positive, je trouve.
Alors, la fin était très, très noire, quand même.
À la fin,
il y avait quand même une noirceur. Il y avait un truc très dark qui, à mon avis, s'estompe vraiment dans ce film-là. C'est presque du Francis Weber, par moment. Oh. C'est une version totalement folle de La Chèvre.
Tu sais que tu peux dire que c'est noir sans le dire en anglais, hein, tu sais. Hein. T'as le droit.
Noir,
hein.
Je connais pas ça. Donc voilà, je trouve le film extrêmement réjouissant. Et Adèle Exarchopoulos fait un numéro mais exceptionnel. Ah, oui. C'est quand elle est apparue, on pouvait penser que c'était plutôt une sorte de nature, quelqu'un qui était à l'écran comme elle était dans la vie. On découvre que pas du tout. En fait, dès la vie d'Adèle, c'était déjà une composition. Et à chaque film, elle montre à quel point elle a une invention d'actrice.
Sauf que là, elle a un personnage qu'elle n'a jamais encore eu.
Non, et pourquoi ? Parce que le personnage est totalement fou. C'est quelqu'un qui crie quand il parle.
Camille ?
Il y a une lumière. C'est Jean-Claude Bette qui disait, on retient d'un film toujours une lumière. Il y a toujours une lumière qu'on retient des films de Quentin Dupieux. Une espèce de forme pastel à la fois très douce et qui donne lieu à un univers à la fois très clair, très, chaque chose est très détaillée, avec des contours très précis. Et en même temps, il y a une forme d'arbitraire absolu et de nécessité absolue toujours dans ce film. C'est une sorte de cadavre esquis. On tombe sur quelque chose, on en fait quelque chose, une forme de minimalisme maximaliste. Le moindre petit détail devient une machine à fiction énorme. Là, on a l'impression d'être dans une sorte de, je sais pas, de festin nu lofi sur le côté burlesque avec cette façon de jouer au con qui peut être parfois... C'est toujours sur le temps que le film prend. Ce sont toujours des films assez courts qui pourraient être réduits à un pitch de court-métrage et qu'il délaie comme ça sur 1h10, 1h15 maximum. Et la façon dont ça prend, vraiment, en termes d'expérience de spectateur, dans une forme d'absurde cadavre exquis, comme ça, de film marabout, bout de ficelle, selle de cheval, etc. Vraiment, il va d'une scène à une autre, on a l'impression qu'on le suit avec le même arbitraire absurde et logique en même temps, très curieux. Et c'est vrai que l'arrivée de Exarchopoulos, qui, après ces deux qui jouaient au con et qui étaient vraiment des crétins, elle explose le film parce qu'elle est vraiment folle. Enfin, et en même temps, c'est la seule qui dise la vérité. Ouais, ouais, c'est la seule qui explique aux autres ce qui est en train de se passer. Et la vérité est totalement folle, donc de fait, tout se retourne.
C'est ce qu'on retrouve chez Jarry. Hein, ça, c'est,
voilà,
c'est toujours
ça,
la folie dit la vérité. Oui. Michel, tu arrives ?
Oui. Alors, le problème, c'est que, par exemple, j'apprécie beaucoup chez Camille la hiérarchie. Je pense qu'un critique doit avoir absolument une hiérarchie. Mais alors moi, c'est un peu l'inverse d'elle, c'est-à-dire... Autant que Fellini et Kubrick ne l'intéressent pas du tout. Moi c'est plutôt
Fellini,
ce cinéaste Quentin Dupieux. Non pas qu'il n'ait pas de talent, parce que c'est incontestable qu'il y a du talent dans ce film, mais il est disproportionné. Moi, il me fait penser un peu à la mouche de son film. C'est-à-dire que
on fait
de Quentin Dupieux une très grosse mouche, un très grand metteur en scène. Toute la presse est à genoux, ça va des quotidiens, hebdo, mensuels, alors que je pense que le film ne tient pas la route. C'est-à-dire qu'il y a des idées drôles qu'il reprend de film en film. C'est la veste en daim, c'était le pneu tueur, etc.
La mouche est une nouveauté.
Mais il se renouvelle dans les engins tueurs, enfin la mouche qui ne tue pas d'ailleurs là. Mais je trouve que d'abord, il y a quelque chose qui me frappe, c'est tout de même les deux comédiens qui sont des stand-up, comme on dit en Amérique, qui sont des comédiens, Grégoire Ludig et David Marsay, qui ont un certain talent, ne tiennent pas la route véritablement. C'est-à-dire qu'ils sont assez répétitifs dans leur comique. Quand on pense aux frères Cohen, par exemple, parce qu'on y pense, la dérision des frères Cohen, l'absurde des frères Cohen, c'est des acteurs exceptionnels.
C'est vrai que Quentin Dupieux, dans quasiment tous ses entretiens, se prévaut des frères Cohen.
Oui, mais c'est évident. Mais là, il y a une photo magnifique chez les frères Cohen, il y a des interprètes éblouissants. Moi, ce que je retiens de ce film, c'est les deux femmes. Qui sont vraiment étonnantes toutes les deux.
India Air et Exarchopoulos.
Qui sont vraiment étonnantes. Et les autres, bon, ça me fait rire de temps en temps, je reconnais que c'est assez drôle. Mais 1h17, c'est presque trop.
Je sens que tu n'as pas beaucoup ri, contrairement à ce que tu dis, Eva.
Mais moi, je trouve que je ne déteste l'expression « feel good movie », parce que c'est des films qui ont été fabriqués pour qu'on se sente bien. Celui-ci n'est pas fabriqué pour qu'on se sente bien, et on se sent bien. Ça me fait penser un peu au conte pour enfants. On dit à un enfant, il était une fois, il ouvre, alors il y a une grosse mouche. Et nous, en tant qu'adultes, on devrait dire, attends, sa grosse mouche, vous avez vu, ce n'est pas les effets spéciaux de George Lucas. Hein, il a fabriqué une grosse mouche. Et nous, on accepte d'y croire. Et ça, c'est formidable parce qu'on prend le pari avec eux. Ils sont sympathiques, mais ils n'en ont rien à faire. Ils mettent aussi le feu à la maison de quelqu'un. Et on les suit. Je trouve que même, par exemple, quand ils arrivent dans la belle villa avec piscine, ils ne se croient pas obligés de nous faire « oui, alors voilà les riches et voilà les pauvres ». Ce qui l'importe, c'est les deux types, leurs mouches. De même que ce qui l'importe, c'est leur amitié et leurs mouches. Je ne sais pas où il est dans l'histoire du cinéma. Ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. Non, dans mon sujet actuel, c'est que ça m'a fait infiniment plaisir. Et il tient son contrat. Et il le tient jusqu'au bout. Ouais. Et on se rend compte qu'il n'y a pas une image de trop, qu'il n'y a pas un truc de trop, que c'est réaliste. Et juste à côté du réalisme, ça ne l'est pas. Enfin, c'est très bien foutu, c'est bien tenu.
C'est Mandibule de Quentin Dupieux. ADN, le film de Mai Wen, vous savez, Police, Mon Roi, qui porte le label Festival de Cannes, sorti à la veille du confinement. Il aurait dû revenir en salle cette semaine avec Mai Wen, Fanny Ardant, Louis Garrel, Marine Wacht, Dylan Robert, Alain Françon. C'est le film peut-être le plus personnel de Mai Wen, dont je rappelle que la mère est franco-algérienne et le père breton d'origine vietnamienne. C'est important à savoir, puisqu'ici elle est Neige, une femme divorcée, mère de 3 enfants, qui rend régulièrement visite dans une maison de retraite à son grand-père algérien, Émir, qui est un ancien félaga, et c'est lui qui l'a élevé et protégé de ses parents toxiques, joué par Fanny Ardant et Alain Françon, jusqu'au jour où le grand-père meurt. C'est lui, dit la mère, qui faisait qu'on était une famille. Dès lors, Neige va vouloir connaître son ADN et ses racines, un film donc en forme de quête identitaire, mais aussi, il faut dire la vérité, de règlement de compte. Est-ce qu'il vous a touché, Eva ?
Oui. Je trouve que c'est un film qui a une sorte de grâce. Il est tenu par sa grâce. D'après ce que j'ai compris, elle avait un projet plus ambitieux. Elle a fait ce film en attendant. Et il a justement peut-être la grâce des projets qui n'ont pas été trop étudiés. Le grand-père était déjà dans Police. C'était une scène de déjeuner avec une famille heureuse d'être autour de lui. Il était lumineux. C'est un film qui correspond à un genre. Le film de funérailles pour une partie, avec tous les quiproquos qui peuvent se passer, les familles qui peuvent, les éclats qui peuvent sortir, mais ça va au-delà. Je dirais que elle a de l'humour aussi par rapport à ce qu'elle dit. Quand dans sa quête des origines algériennes, sa quête, elle la montre, elle a une sorte de distance, elle la montre comme une enfant qui regarde alors c'était quoi les histoires entre la France et l'Algérie. Elle se met des lentilles de contact colorées alors qu'elle a les yeux bleus pour avoir l'air un peu algérienne. Donc elle a sa distance et sa conclusion, elle est très modeste, elle est à l'échelle individuelle et où elle dit en fait que nos origines, c'est notre imagination, c'est pas dans les chiffres de l'ADN. Et donc je trouve qu'il y a c'est un film personnel qui peut intéresser beaucoup de gens. Je trouve que c'est un très joli film.
Elle n'était peut-être pas obligée non plus d'en faire un peu trop dans sa manière de jouer. Camille.
Mai Wen, c'est une réalisatrice que je n'aime pas. Donc, c'est pas celui-là qui va arranger les choses. C'est le problème d'un certain cinéma à la fois narcissique et naturaliste, qui à la fois se réclame d'un piala pour le côté filmer un groupe de gens comme ça en roue libre dans un monde français, la bonne franquette, le bon vivant. Et puis on attend la crise, on attend toujours le règlement de compte. Ça marche à ça, au coup de force, quand ça commence à ne plus aller. Et donc c'est entre ça et l'acteur studio. Elle doit aussi pas mal se réclamer de l'acteur studio à la Cassavette. Enfin, comme ça, c'est une espèce de film de groupe et de communauté qu'on filme comme ça, à caméra à l'épaule, avec une semi-improvisation, à l'intérieur de quoi il y a Louis Garrel qui vient faire le clown et qui fait des bons mots, ce qui finalement, et je crois, l'essentiel du film, c'est de vouloir faire des bons mots et sur le dos du naturalisme et de la vraie vie. Mais qu'est-ce que c'est que la vraie vie? Moi, je supporte pas cette espèce de façon d'attendre la crise, le coup de force. Puis là, quand il rentrait à Nos Amours et qu'il venait dans la famille pour faire que sa gueule et qu'il la gifle à Sandrine Bonnaire, c'était une chose qui arrivait par nécessité. C'était pas la chose qu'on attendait, qui était recherchée pour faire cinéma, pour dire tu me dégoûtes à Fanny Ardant, à sa mère, ou pour montrer une espèce de père le péniste cultivé que je trouve vraiment.
Qui est, je le rappelle, Alain Françon, très bon metteur en scène
Oui, c'est un jeu de massacre
de théâtre par ailleurs.
Naturaliste. Donc voilà, il y a cette espèce de chantage à la confession autobiographique.
Un jeu de massacre. Au contraire, c'est plutôt une renaissance d'elle-même. Elle a réglé
ses problèmes. Elle prend le téléphone pour prendre une photo quand elle arrive en Algérie. Elle est plus une touriste que quelqu'un qui revient aux sources. On a l'impression d'être dans une sorte de poster. Enfin, il y a tous les poncifs du naturalisme. Et au lieu de se retrouver chez Piala ou chez Cassavetes, on se retrouve plutôt chez Lelouch. Alors, en fait, c'est quand même une reprise de son premier film. Alors, ce qui est étrange avec elle, c'est qu'elle prend des mères truffaldiennes. Elle prenait Marie-France Pizier la première fois. Là, c'est Fanny Ardant. Et à la fois, elle a toujours une espèce de façon de filmer filmé, c'est la seule chose que je reconnais au film dans ces temps de confinement, c'est la promiscuité. C'est une façon de se toucher, de s'embrasser. C'est peut-être la seule chose qui me semble...
Ce ne sont pas des gestes de confinement. Hein,
non, mais justement, c'est assez étrange de voir des acteurs et des corps faire ça aujourd'hui au cinéma, alors qu'on est complètement interdit de
Je vois que Jean-Marc opine du bonnet.
Oui, mais je suis un peu frustré, parce que la punchline que j'avais prévu de dire, c'est que c'était un film de Claude Lelouch déguisé en film de Maurice Pialat, et Camille m'a coupé l'herbe sur le pied.
Est-ce que vous voyez avant les émissions, tous les deux?
Trop peu, je le regrette.
On peut pas, on n'a pas le droit.
On est connectés, voilà, c'est comme ça. Moi, je parlais tout à l'heure de toxicité, et je pense que la toxicité, c'est vraiment le sujet de Maïwenn, mais le problème de ce film-là, comme du précédent Mon Roi, c'est qu'au fond, la toxicité, elle trouve ça sexy et glamour, et je trouve qu'il y a un mélange entre la fascination pour la férocité et la sensiblerie, le fait que plus les gens font des crises et plus, en fait, ça la fascine et sans aucune distance, totalement premier degré pour en tirer des effets de glamour et de spectaculaire, je trouve qu'il y a quelque chose de profondément puéril dans ce rapport qu'elle a à la toxicité humaine.
Il y a une sorte de distance de l'humour. Elle se regarde aussi faire ce qu'elle fait.
Elle se regarde beaucoup, ça je suis d'accord.
Elle regarde ce qu'elle fait avec distance. Il y a une forme d'humour, il y a une manière, pas du tout. Moi je trouve pas du tout qu'il n'y a pas de distance, il y en a.
Bon. Michel ?
Alors moi, Maïwenn, c'est vrai que j'étais souvent partagé, mais en même temps, elle divise. Moi, ça me plaît beaucoup, le metteur en scène qui divise. Et ce film est un peu foutraque, comme tout ce qu'elle fait, mais justement, je trouve que c'est son meilleur film, parce qu'il y a des racines, évidemment, autobiographiques, c'est évident, il y a de la proximité, mais il y a aussi, elle passe de l'individuel au collectif, elle parle justement de ses racines algériennes. J'aime beaucoup les comédiens, ils sont tous absolument merveilleux. Je trouve qu'il y a une direction d'acteur, c'est même pas un mot la direction d'acteur, en tout cas il y a une série d'acteurs dont Louis Garrel et Alain Françon en particulier en mari exécrable, absent, on le voit jamais, etc. Mais c'est un personnage absolument abominable, une sorte de réac absolu.
Oui, pas le mot faible, c'est plus que
j'ai réac. J'ai pris vraiment, je trouve qu'il y a une énergie dans ce film, et c'est un film viscéral, c'est fait un cinéma viscéral, et moi ça me plaît les cinéfilms viscérouillés. J'aime pas trop la dérision à un certain degré, j'en ai un peu assez.
Bah on voit, au moins voilà, la Tribune du Masque est coupée en deux de manière très claire à propos de ADN de Maïwenn. Encore un film dont le confinement a repoussé la sortie, c'est Slalom. Le premier long métrage de Charlène Favier avec Noé Habitat, Jérémy Régnier, Marie Denarnot, Lise, c'est la jeune Noé Habitat, qui intègre à 15 ans la section ski études du lycée de Bourg-Saint-Maurice. Elle est douée, même très douée. Et Fred, son entraîneur et ancien champion, c'est Jérémy Régnier, décide de tout miser sur elle. Lise, dont les parents sont inexistants ou des missionnaires, enchaîne les victoires en même temps qu'elle tombe sous l'emprise physique et mentale de Fred. Ce film sur l'adolescence abusé, et c'est pas parce que ça se passe à la montagne, est tout à fait glaçant, d'autant qu'on n'a jamais, vous le savez, autant parlé d'abus sexuels dans le milieu sportif, notamment récemment Sarah Abitbol dans le patinage artistique. Michel.
Alors, j'aime beaucoup ce film, c'est un premier film extrêmement prometteur, sur un sujet effectivement très actuel, c'est-à-dire on peut imaginer... par exemple, Adèle Hanel faisant un film sur ce sujet-là, c'est la proximité d'un tuteur qui prend une emprise sur une jeune personne. Et apparemment, c'est tiré d'une expérience sexuelle qui a été traumatisante pour l'auteur de ce film.
Oui, et apparemment, la réalisatrice a connu un drame dans sa propre vie.
Ce qui est passionnant, c'est de voir effectivement un entraîneur qui a une proximité physique avec cette femme, parce qu'il connaît sa nutrition, il connaît ses muscles, il connaît même ses périodes. Il vit avec elle quasiment au quotidien. Il est lui-même un peu presque effrayé de ce qui lui arrive, et il devient follement amoureux au point d'effectivement de la violenter. Donc c'est un sujet très fort, mis en parallèle avec des scènes de ski que je trouve admirablement filmées.
Et c'est le grand skieur de Positif qui nous le dit.
Absolument, j'ai fait du ski dans ma jeunesse. Et je trouve que l'alternance entre ces scènes intimes et ces scènes sportives fait de ce film vraiment quelque chose de très prenant.
Eva ?
Je le trouve effectivement doué. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on voit par exemple comment on part du corps qui n'est absolument pas érotisé, le corps d'un athlète pour son entraîneur, s'il faut que tu prennes la masse musculaire, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu l'écoutes, et puis... Et le moment où ça bascule, le moment où elle le fait, c'est pas une sorte de progression, c'est après qu'elle ait gagné, et c'est comme un élan où tout d'un coup, il la regarde autrement. Et c'était pas évident de filmer ce passage. Elle ne l'explique pas, mais elle le montre. Mais avec...
Dans le film, on voit bien qu'il veut réellement en faire une championne.
Il veut réellement en faire une championne. Au départ, il n'a pas d'ambiguïté. C'est pas quelque chose qu'on voit à bas bruit où il y a une main qui... Au contraire, c'est elle, une fois qu'il prend sa douche nue, qui voit sa nudité autrement. Donc, la manière dont elle l'amène est intéressante, c'est comment, à un moment donné, ça bascule. Et aussi, ce qu'on voit, c'est que l'emprise, c'est aussi le vide autour de quelqu'un. Mais le vide, il est quasiment institutionnalisé dans ce type de rapport, puisque les parents gênent l'entraîneur. Ils veulent qu'il n'y ait personne entre eux et la personne dont ils s'occupent. Donc, ce type de rapport induit le vide.
Jean-Marc ?
Ouais, je trouve le film quand même un peu imparfait et fragile par endroits, mais effectivement, elle réussit à filmer quelque chose.
C'est un premier encore, hein.
Oui, bien sûr. Elle réussit à montrer ce qui est imperceptible, ce qui ressemble à un glissement de à une ambiguïté qui en même temps est un saut. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un geste qui est un geste d'affection se transforme et devient autre chose. Et ce moment-là qui est très très compliqué à filmer, qui est presque invisible, où tout à coup, ce qui était consenti ne l'est plus et devient extrêmement violent, le film le montre de manière assez fulgurante. En même temps, moi je trouve qu'elle réussit pas totalement à faire un récit de long métrage. Je trouve que le scénario piétine un peu. Je pense qu'il y a quelque chose...
Oui, mais elle réussit le plus difficile après.
Exactement,
oui, il y a des défauts secondaires, peut-être.
Elle réussit le plus difficile.
On a compris que les parents étaient absents, il n'y avait pas besoin de trois scènes pour ça. C'est secondaire.
Camille ?
Le film m'a vraiment déçu.
Pourquoi ?
Bah parce que moi aussi j'ai été une skieuse et que j'aime beaucoup.
C'est vrai.
Oui. Enfin je le suis encore. Hein,
je savais pas que le masque était à ce point.
Les remontées mécaniques refonctionnent et j'y retournerai. Mais effectivement les scènes de ski sont super. Vraiment c'est très bien filmé. Le sens de la descente, de la vitesse. Et c'est peut-être ce qui m'a déçu, c'est que le film de sport laisse un peu et trop vite place au film à sujet. Et je trouve que sur ce versant-là, même si c'est osé, etc. Je trouve que le film a une mise en scène quand même très sage. Le film est un peu comme la piste de ski, il est damé, enfin il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de on arrive en bas tranquille après un truc de vitesse, et je trouve que le personnage de Jérémy Régnier, qui a une espèce de mérite à faire ce rôle très très ingrat, apporte sans doute quelque chose de fort quand il explique qu'il aurait pu être un champion et qu'on l'a laissé tomber le jour où il a eu un accident. Il y a comme ça peut-être une espèce de psychologie derrière ça qui fait qu'il est en train à la fois de vouloir en faire une championne et à la fois de la détruire. C'est peut-être une piste que le film n'a pas assez fouillée, et je trouve que quand même sur le côté film de championne, film de fille qui s'entraîne et qui se fatigue et qui se crève, on voit pas assez l'effort physique comme on voyait dans Girl Fight, le film sur la boxe, ou Million Dollar Baby de Eastwood. Ça me manque un peu, mais en même temps je vais pas lui tomber dessus, c'est un premier film et j'espère qu'elle en fera d'autres.
C'est Slalom de Charlène Favier, ces films, je veux parler de Mandibule, ADN, Slalom ne sont pas en salle, ils auraient dû sortir, mais je pense qu'on pourra aussi les voir très prochainement en DVD ou en VOD. Allez, Monk, c'est le nouveau film de David Fincher, Seven, Fight Club, etc., qui ne sort pas en salle, mais qui est disponible sur Netflix depuis le 4 décembre, un film en noir et blanc dont le scénario a été écrit par le père du cinéaste Jack Fincher, qui est mort en 2003. C'est le portrait d'Herman Mankiewicz, le frère aîné de Joseph Mankiewicz, vous savez, le réalisateur de All About Eve et de La Comtesse aux pieds nus notamment. Fincher donc montre Herman rongé par l'alcool, alité avec une jambe plâtrée dans le désert californien, au moment précis où le jeune Orson Welles lui demande d'écrire le script de Citizen Kane, en spécifiant bien dans le contrat qu'il n'apparaîtra pas au générique. Portrait de Mank, joué par Gary Oldman, mais aussi, j'allais dire, mais surtout du Hollywood des années 30-40 avec ses producteurs de légende, Selznick ou Louis B. Mayer avec sa vedette d'alors qui est Marion Davis, maîtresse du mania de la presse William Randolph Hearst, avec ses intrigues, ses rivalités, ses vanités, film de 2h12. Où on parle beaucoup et dont, je dois l'avouer, peut-être que c'est pas votre cas, je pense que ça demande quand même une attention permanente du spectateur, tellement il fourmille de détails historiques et de personnages que personnellement je ne reconnaissais pas toujours. Bref, c'est dense, l'image est très belle, je le disais, il faut parfois un peu s'accrocher. Si je vous dis que mon seul sentiment personnel, c'est qu'au-delà de cette beauté, il m'a manqué quelque chose qui s'appelle tout bêtement l'émotion, c'est-à-dire le tremblement. Ça vous choque ou pas, Jean-Marc ?
Non, ça me choque pas. C'est vrai que c'est un film qui n'est pas très émouvant, qu'il est quand même par endroits, mais qui est plus passionnant qu'émouvant, qui est un film qui fait vraiment réfléchir et qui est extrêmement fascinant, parce que très retors, je pense. Tu disais que c'est un film que Fincher avait fait pour son père, qui en avait écrit le scénario. Donc, il a fait pour son père et un peu à la place de son père. Et c'est le sujet du film, en fait. C'est comment on vole un film à quelqu'un, comment on vole la vie de quelqu'un. Et c'est vrai que cette figure de manque, c'est une sorte d'homme dépossédé de tout, qui à la fois a été chassé de Citizen Kane par Orson Welles, qui en a pris toute la lumière et tout le mérite, chassé de l'histoire du cinéma par son frère, qui l'a remplacé.
Même s'il sera reconnu au générique et au moment des Oscars.
Mais en même temps, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il y a une sorte de querelle scolastique parmi les historiens du cinéma sur cette question-là, puisque à la suite d'un article de Pauline Kael, cette idée que Mank était le vrai auteur du scénario d'Orson Welles s'est d'abord imposée, mais a aussi été très contestée. Et moi, personnellement, je pense que quand même Citizen Kane est absolument un film d'Orson Welles et dont le mérite va bien au-delà de son scénario. Mais ce qui est fascinant dans le film, c'est que Fincher fait mine, en fait, de vouloir réhabiliter Mankiewicz contre Welles, mais en fait, il fait un film qui est profondément wellsien, et mieux que ça, il fait de Mank un personnage wellsien. C'est-à-dire que Mank, c'est vraiment la figure de Falstaff, qui est le personnage shakespearien dont Welles avait fait, à mon avis, un de ses plus beaux films. Ce bouffon qui va être chassé de la cour des grands, qu'il courtise en se moquant d'eux, et cette figure tragique du bouffon déchu, c'est une figure très 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 wellsienne, et en fait je pense que le film est autant un tribut à Welles qu'une tentative de réhabilitement, qui c'est en cela qu'il est complexe et fascinant.
Est-ce que je suis le seul à ne pas avoir reconnu tous les personnages, Michel?
Non, j'ai tellement étudié cette époque et Hollywood ça m'a pas vraiment dérouté, mais je comprends absolument ce que tu dis. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est un film, même en le regardant, il y avait des moments où je m'accrochais parce que j'essayais de resituer, etc. Mais d'abord, ça donne envie de le revoir. Il n'y a pas beaucoup de films comme ça, parce qu'on pense qu'à la deuxième ou la troisième vision, on va en savoir davantage. Mais c'est tellement fascinant par le brio et l'intelligence avec laquelle il est reconstitué. Je crois que c'est peut-être le plus grand film que j'ai vu sur Hollywood dans les années 30. La politique, les rapports...
Oui, parce qu'il faut expliquer pour ceux qui ne l'ont pas vu que c'est plein de flashbacks. Et ça
voilà,
explique
comme
pourquoi.
Citizen Kane.
Voilà, exactement.
C'est plein d'allusions à la politique avec le personnage d'Upton Sinclair, le candidat gouverneur de Californie, qui, comme aujourd'hui, Trump accusait Biden d'être un communiste. La même chose, on accusait ce démocrate d'être quasiment un communiste. Donc c'est la vie politique, c'est les rapports de force à l'intérieur d'une compagnie, et c'est surtout des allusions, et Jean-Marc vient d'en parler, au style d'Orson Welles. Il y a des contre-plongées, il y a de la profondeur de champ, c'est un festin pour les yeux et pour l'intelligence, c'est un film absolument passionnant.
Enfin, moi, quand je le reverrai, j'aimerais bien le voir aussi sur grand écran, et pas uniquement sur l'écran sur lequel je l'ai vu, Eva.
Je vais te rejoindre et peut-être même aller plus loin. C'est un film à double détente. C'est-à-dire, dans un premier temps, il ne procure pas le plaisir, cette impression d'adhésion et de plaisir ou d'être emporté.
Il y a plusieurs esthétiques.
Oui, mais je te dis le plaisir d'être dedans. C'est un film où on reste lointain. À un moment donné, la femme, Mank dit à sa femme, pourquoi tu restes avec moi? Elle lui dit, parce que je ne m'ennuie jamais. Et c'est pas vraiment la définition de ce film. C'est-à-dire que tous les événements ont l'air à peu près égaux. Il y a la Fräulein qui raconte qu'il a réussi à sortir tout un village, à faire échapper tout un village du nazisme. C'est vrai que tout est sur le même plan.
Parce qu'il faut expliquer qu'il est gardé par des aides-soignantes allemandes.
Mais après, il va être question, à un moment donné de la période, c'était les années 30-40, il va être question de fake news, qu'on appellerait aujourd'hui des fake news. Et on a l'impression qu'il y a une sorte d'édredon qui égalise tout. Et après le plaisir, il va être dans des bouts. Il va être dans le fait qu'effectivement, le seul être humain véritable, c'est Mank. Les autres, c'est comme un film de spectre. Il fait comme un Hollywood illisible. Et la seule personne, en fait, c'est un film sur un revenge movie, sur la revanche. C'est même pas le loser magnifique, c'est le numéro 2. Et si on pousse plus loin, mais je ne veux pas avoir l'air trop intello, ça irait quasiment contre la politique des auteurs qui a consisté à dire que ce qui compte, c'est le metteur en scène.
Mais bien
lui,
sûr,
il
le film
dit,
est fait contre
dans un
ça.
Chef-d'œuvre, c'est le scénariste. Je ne suis pas sûre que ce soit son propos. Mais voilà, mon vrai reproche, c'est qu'on reste extrêmement lointain.
Camille.
C'est vrai que c'est un film cérébral, on pourrait même dire intellectuel, pourquoi pas. Moi, je le trouve pas très proche du cinéma de Welles, en revanche. Je le trouve beaucoup plus proche d'autres films sur le cinéma, dont surtout, je trouve qu'il y a une référence à Fellini qui est puisque donc j'ai quand même aimé Fellini, contrairement à ce que Michel Simon a insinué tout à l'heure, sur l'espèce de foire, de cirque qu'est le cinéma, que ce soit Cinecittà ou Hollywood. Moi, j'ai commencé à le revoir, parce que c'est vrai qu'au début, c'est un film tellement saturé, mais ça, c'est très fincherien. On est dans un monde tellement illisible, où le personnage principal erre au milieu des signes qu'il essaie de déchiffrer les uns après les autres, et nous, on est pareil. Et en commençant à le revoir, je peux vous assurer que ça devient extrêmement limpide, extrêmement plaisant. La virtuosité n'est pas du tout à vide, mais il y a quelque chose de l'ordre du récit, parce que je crois que c'est ce qui passionne Fincher, c'est pas tellement le formalisme, c'est pour ça qu'il défend le scénariste comme auteur, et donc c'est celui qui est le dramaturge, c'est celui qui conduit le récit. Et tout chez lui, pour moi, est de l'ordre de comment on raconte et qu'est-ce qu'on raconte. Et donc, Wells aussi avait cette intention-là, mais Citizen Kane est tellement un film totem, symbolique de ce qui se fait de plus original au cinéma. Moi, c'est pas ce que je préfère. Je préfère Elle et lui, qui date de la même année.
On va en parler dans voilà. quelques instants.
Je voudrais simplement dire que je peux admirer ce film, même s'il dit la chose, le contraire de ce que je pense. Je pense que Wells, comme le disait Jean-Marc, est le vrai auteur de Citizen Kane et qu'il a poussé cet homme qui avait écrit des scénarios pas inintéressants, aucun grand scénario, il a poussé cet homme à écrire son meilleur scénario.
Mais moi, je voudrais dire aussi que je ne dis pas que le film n'est rien. Je suis consciente, en faisant tes grandes réserves, que le film est important.
Je pensais à Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino, parce que je me dis, qu'est-ce qu'un spectateur ne sachant pas de quoi il est question peut comprendre. C'est très intéressant comme passé du cinéma qu'on nous présente aujourd'hui. Les gens ne comprennent pas et pensent que le film est dandy, snob. Peut-être qu'il l'est, après tout.
C'est comme... Manque de David Fincher est disponible uniquement sur Netflix. Netflix où Fincher donc a rejoint le club d'Alfonso Cuarón, de Martin Scorsese et de quelques autres. Allez, quelques classiques. On commence avec Ariane, un film de 57 de Billy Wilder avec Gary Cooper et Maurice Chevalier, qui ressort en version restaurée DVD Blu-ray chez Carlotta. Ariane, jouée par Audrey Hepburn, est la fille unique de Claude Chavas et Maurice Chevalier, dont l'accent est vraiment un pur régal, l'accent anglais, veuf et détective privé spécialisé dans les affaires conjugales, qui exerce son activité dans la ville où, je cite, on fait l'amour l'après-midi, c'est-à-dire Paris. Un mari vient le voir pour qu'il confonde sa femme, qu'il suspecte d'avoir une relation avec un riche américain logé au Ritz. C'est Frank Flanagan, qui est joué par Gary Cooper, qui a quand même 28 ans de plus que...
30 ans,
que, oui. Oui, non, 28, exactement. J'ai calculé qu'Audrey Hepburn, après que l'adultère a été confirmé, même photographié par le détective du haut de la colonne Vendôme, le mari cocu promet d'aller tuer son rival et Ariane, Audrey Hepburn, se précipite au Ritz pour prévenir Gary Cooper et c'est ainsi que commence une histoire d'amour dont je ne vous révélerai pas l'épilogue. Le film a un charme fou. L'image que donne de Paris Billy Wilder est aussi drôle qu'une comédie de Feydeau, l'accent en plus. Et dans le coffret qui accompagne cette réédition, un beau livre qui est signé par toute l'équipe de Positif, hein, tout le monde s'y est mis, et un entretien de Michel avec Billy Wilder. Et il y a cette photo qui pour moi est collector, c'est Michel qui interviewe Billy Wilder allongé dans un hamac. Bref, je te donne la parole en premier, Michel.
C'est un grand film. C'est sûrement, on dit toujours Billy Wilder, disciple de Lubitsch. C'est vrai, il a été le scénariste de Lubitsch. Mais c'est le seul film vraiment lubitschien.
C'est un film lubitschien.
C'est le seul film vraiment lubitschien de Billy Wilder, qui d'ailleurs a tourné ses films les plus romantiques en Europe. Avanti, c'est le cas de Sabrina, c'est le cas d'Avanti, c'est le cas de beaucoup de ses films, parce que l'Europe, c'est finalement une certaine forme d'expérience et qui lui donne une sagesse par rapport à des Américains qui sont un peu balourds et qui vont être convertis par une Européenne. Alors ici, c'est évidemment Audrey Hepburn qui va convertir ce séducteur oisif joué par Gary Cooper.
Et milliardaire.
Et milliardaire, qui va finalement partir avec elle, vivre en Amérique, mais transformé par l'expérience de l'Europe. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est un film sur l'expérience et l'innocence, en fait. Et ce qui m'intéresse, c'est le personnage de Chevas, c'est-à-dire le détective privé, c'est-à-dire Chevas Chevalier, qui dans ses archives, qu'il déteste, parce qu'il a un travail très intellectuel, mais qui consiste à vraiment s'intéresser à des affaires répugnantes, louches...
Que des affaires de cul, hein.
D'adultère,
oui, franchement, il n'y a que ça qui... Alors pour à lui, Paris, il n'y a que ça, finalement.
Pour lui, il déteste ses archives dans des grands... qu'il a gardées dans des tiroirs, mais elle, pour elle, au contraire, c'est très romanesque. Elle les lit sans arrêt, et c'est comme ça qu'elle va tomber amoureuse de Gary Cooper.
La petite Audrey Hepburn qui est violoncelliste dans les
violoncelliste.
Films.
Violoncelliste. Et
dont
d'ailleurs.
Dans les tuis va.
Et dans tous les films, ça ne plairait pas du tout à Me Too, parce que tous les films d'Audrey Hepburn de l'époque, elle est amoureuse d'hommes qui ont 30 ans de plus qu'elle. C'est Humphrey Bogart, c'est Rex Harrison, c'est. Tous les films d'Audrey Hepburn sont avec des gens qui ont 30 ans de plus qu'elle. Bon, c'est une horreur absolue pour notre époque. Et le film a néanmoins un charme absolument.
Et tu oublies de dire qu'il est parfois d'une drôlerie, la scène récurrente des musiciens de Zigane qui annoncent chaque fois les aventures de Gary Cooper, c'est assez drôle.
Et quand on le voit effectivement, c'est avec notre œil d'aujourd'hui, et c'est pas Michel forcément un œil de militante, mais on se dit d'abord c'est super glauque. Elle a 19 ans, ils disent à l'époque elle a 19 ans, son père à l'âge d'être son grand-père, et il voit tout ce qu'elle fait, c'est une sorte d'appartement où il n'y a aucune intimité. Donc il y a d'un côté le père qui est un vieillard, il ne devrait pas être
son
père.
Non, c'est pas un vieillard.
Non, il est
un
super
homme mûr.
Vieux. Non, il fait vieux.
Et il y a Gary Cooper. Qui a joué chez Lubitsch.
Oui, Gary Cooper qui a 55 ans, qui en paraît 10 de plus. Il y a un côté assez glauque. S'ajoute, ça n'empêche pas d'être drôle et formidable, hein, mais s'ajoute le fait que c'est elle qui va vers lui. C'est elle qui est séduite par cette image dont on lui dit que c'est un sale type. Oui, quoi. C'est vraiment
elle va s'inventer
type.
Une foultitude d'amants.
De raisons pour y aller. Et après, là aussi, où c'est pas de la comédie sur des choses très simples, hein, elle, c'est une pure jeune fille qui s'invente une vie de quasiment de fille entretenue, puisque tous ses amants sont riches. Elle arrive avec une Hermine, c'est un tel qui me l'a offert. Donc supposer qu'elle est une sorte de fille entretenue pour séduire. Et avec tout ça, on arrive à avoir des choses qui sont très bien faites, très subtiles. L'image de l'homme qui ressort de là est finalement une image pitoyable, parce que les femmes sont des sortes de choses interchangeables. Son rapport à la séduction est absurde. C'est un mélange du Petit Chaperon Rouge, qui me serait roué.
Et de Cendrillon.
Et des Mille et une Nuits, puisqu'elle le tient par le récit.
Avec la,
par le récit d'un amant inventé.
Oublié, Jean-Marc.
Ouais, moi je trouve le charme du film très relatif. Pour moi, c'est vraiment pas un Wilder très inspiré. Et je pense même que Audrey Hepburn n'est pas une bonne muse pour Billy Wilder. Je pense que ni Sabrina ni Ariane sont des films importants de Wilder. Je pense que Marilyn Monroe ou Shirley MacLaine inspirent beaucoup plus. Ah si, je pense que Marilyn Monroe est géniale chez Billy Wilder. Alors que je pense que Audrey Hepburn est mieux chez Stanley Donen, par exemple, qui a quelque chose dans son ingénuité.
T'as pas eu du plaisir à revoir ce film.
Si, le film est plaisant. Mais je pense vraiment que c'est pas un grand film de Wilder, que c'est pas La Garçonnière. Je trouve un peu mécanique, c'est un peu du Lubitsch mécanique sans la grâce qu'il y a chez Lubitsch. C'est vraiment pas mal, mais je trouve ça mineur.
Et Camille ?
C'est un film qui est entre Lubitsch et Black Edwards. Enfin, c'est vraiment là où se situe Billy Wilder, qui est ni vraiment plus un classique et qui n'est pas encore le post-classique qui est devenu Black Edwards. Alors, moi, je suis pas une fan de Billy Wilder non plus, donc j'aime ses films, mais pas tous. J'ai adoré certains Lem Show, mais il y a toujours quelque chose de balourd chez Wilder. C'est quand même pas l'élégance et la classe absolue de Lubitsch. Wilder, il y a un côté presque de mauvais goût que j'aime bien, mais que je... Voilà, c'est un peu comme Quentin Dupieux. On peut les mettre à un niveau important, mais pas c'est pas ce que je préfère au monde dans le cinéma. Il faut dire quand même, contre Michel Simon, que Me Too dans les années 50 existait déjà, puisque le film a été un échec total et avait scandalisé tout le monde, parce que justement il y avait un trop grand écart d'âge entre Audrey Hepburn et Gary Cooper, qui lui-même... Alors moi, voilà, le film m'intéresse beaucoup, parce qu'indépendamment du sujet, d'une très jeune femme qui s'amourage d'un homme, d'âge mûr, et Gary Cooper était presque mourant, puisqu'il est mort 3 ans après, il me semble, à 60 ans, d'un cancer de la prostate. Et donc, ce que j'aime bien dans le film, c'est la façon dont on part du point de vue de Maurice Chevalier, du père, donc, qui est le private eye, le détective privé, avec une ouverture totalement hallucinante sur le Paris qui fait l'amour tout le temps, avec cette espèce de plan, alors là, vraiment balourd et vulgaire, sur la colonne Vendôme en phallique, pendant qu'il prend des photos du Ritz. C'est pas très léger. Mais en même temps, la façon dont ce point de vue du private eye devient le point de vue de Audrey Hepburn, et la façon dont c'est le film est entièrement vu de son point de vue de jeune femme moderne qui finalement séduit, c'est elle qui séduit Gary Cooper, et lui est finalement presque filmé comme une femme, parce qu'il était un peu âgé, qu'il avait une perruque et qu'il fallait faire attention, on l'éclairait très très bien et on lui faisait des jeux d'ombre qu'on faisait plutôt aux comédiennes, et c'est elle qui joue le rôle un petit peu de celle qui séduit et qui dissimule tout ce qu'elle est pour pouvoir arriver à ses fins, c'est-à-dire qu'elle est vierge, qu'elle est une sainte Nitouche, qu'elle est une femme rangée, et elle joue la délurée qu'elle n'est pas pour arriver à ses fins avec ce type séducteur. Et Cary Grant avait refusé.
Si vous voulez qu'on évoque encore deux classiques, je vous demande de faire
sans rien
un peu
dire.
Plus court. Voilà. Ariane, c'est donc Billy Wilder, et moi c'est un coffret que vraiment je conseille à tous ceux qui ont encore des cadeaux à faire pour Noël. En plus, l'objet est magnifique. Elle et lui, de Léo McCarey, J'aurais du mal à ce que Camille soit brève sur ce film de Léo Macaret, dont il existe deux versions. Ouais. Je le rappelle, celle en noir et blanc de 1939 avec Irène Dyoun et Charles Boyer, qui connaît une nouvelle jeunesse en DVD et Blu-ray chez Lobster. Et son remake en couleur de 57 avec Deborah Kerr et Gary Grant, disponible sur Canal VOD. Elle est une ex-chanteuse de cabaret. Lui, un coureur de jupons fortuné d'origine italienne, ça change tout évidemment. Il tombe amoureux sur le paquebot qui les ramène à New York. Mais voilà. Ils sont l'un et l'autre fiancés. Elle a un riche Texan, lui a une riche héritière. Et pour s'assurer que l'amour est plus fort que tout, ils décident de se donner rendez-vous 6 mois plus tard au sommet de l'Empire State Building. Je ne dirai pas qui vient, qui ne vient pas à ce rendez-vous. Je vous laisse en tout cas choisir votre version préférée. Je sais laquelle va prendre Camille.
Ma version préférée, c'est la deuxième. Donc là, on parle plutôt de la première, qui est quand même une rareté, parce que c'est un film qui a peu circulé.
Oui, il était illisible, si
voilà,
je veux dire.
Et donc là, ils ont retrouvé, je sais pas, un négatif, je sais plus dans quelle société de production, ils ont tout refait, quoi. Donc c'est enfin visible, parce que moi, voilà, je suis comme beaucoup de cinéphiles, j'ai commencé à découvrir la version de 57. Au passage, Cary Grant avait refusé le rôle de Gary Cooper dans Ariane, et la même année, ou presque, fait elle et lui. Bon, c'est un petit peu compliqué, parce que c'est un petit peu mon film dans lequel je vis.
De chevet.
Non, pas de chevet, comme disait Jean-Marc la dernière fois, mais c'est un film dans lequel je vis. Je sais pas, c'est à la fois ma damnation et mon salut. Enfin, je sais pas, c'est un film dont je ne m'en remettrai jamais. Mais c'est la deuxième version avec Deborah Kerr et Cary Grant qui est quand même. Et j'ai découvert beaucoup plus tard, lors d'une rétrospective, Léo Macaret, qui est pour moi un des plus grands cinéastes au monde. Hein, ça, il faut quand même. Parce que là, ils ont restauré Elle et lui, mais ils pourraient en restaurer d'autres de Macaret qui sont des films un petit peu perdus, soit parce que politiquement pas super correct aujourd'hui avec le macartisme et tout. Mais il y a vraiment des films passionnants de Macaret qu'il faudrait redécouvrir hors cinémathèque. Et Elle et lui, c'est un petit peu un film à la fois méta et le comble du classicisme, c'est-à-dire qu'à la fois il est deux fois et il raconte l'histoire d'une seconde fois, d'une deuxième chance. Donc il y a une façon dont le film de 39 ne savait pas qu'il serait l'occasion d'un remake que Macaret ferait lui-même de son propre film, et à la fois le fait qu'il ait deux films.
Ce qui est un cas rarissime. Hein.
Oui, il y a eu Hitchcock avec L'homme qui en savait trop. Enfin, il y a eu quelques. Mais là, à ce point-là, parce que Macaret a carrément joué avec la copie. Enfin, il a vraiment fait. Il y a le premier film est en noir et blanc. 33, le format carré des années 30, et le deuxième est en scope, Technicolor, Deluxe, enfin vraiment, et comment il a joué dans le premier des ronds, des courbes, de l'espace, tous les hublots, enfin quelque chose de l'espace totalement circulaire, alors que le deuxième est un espace totalement presque mondrian, d'horizontal, de couleurs très, très, très à plat, comme ça. Enfin, je pourrais en parler des heures, mais c'est surtout le plus grand film sentimental du monde. C'est une grande histoire d'amour. Et c'est le film qui fait croire que le cinéma a pu éventuellement toucher le sublime.
Et on a compris que c'est l'histoire d'amour, surtout entre Camille Nevers et Léo Macaret.
C'est ça.
Hein, Michel ?
Oui, alors Macaret préférait la première version. Mais moi, j'aime beaucoup Macaret, qui est un génie assez méconnu du cinéma américain. Je préfère la deuxième. La première, évidemment, est très intéressante et très réussie. La seconde, je la préfère parce qu'elle mêle deux choses qui sont d'ailleurs coexistantes chez certains metteurs en scène, le mélodrame et la comédie. La comédie romanesque et le mélodrame. La première partie de Elle et lui, la version avec Cary Grant et Deborah Kerr, c'est une comédie avec des moments exceptionnels. Par exemple, quand ils sont sur le bateau, tous les deux doivent épouser une femme riche. L'un un homme et l'autre une femme. Et donc, tranquille, ils pourront continuer à ne rien faire, etc. Alors que finalement, ils tombent amoureux. Mais il faut cacher, parce qu'on va les attendre à New York et tout ça. Donc, ils sont assis, ils sont cadrés séparément par la caméra de Macaret. Et ensuite, on découvre qu'en fait, ils sont côte à côte. Ils se tournent le dos, mais ils sont ensemble, et tous les passagers du bateau les regardent. Donc c'est plein de touches de merveilleuses. Et par exemple, la visite de la grand-mère à Villefranche-sur-Mer, escale du bateau, c'est contenu dans cette seule séquence, le mélange du drame et de la comédie. C'est-à-dire, leur amour s'intensifie, c'est aussi une scène religieuse, et c'est une scène familiale. Et les trois scènes sont réunies en une seule. C'est magistral.
Jean-Marc. Rarement au cinéma, pour rebondir sur ce que dit Michel, on aura dégagé la dimension de spiritualité qu'il pouvait y avoir dans le sentiment amoureux. Il y a vraiment une sorte de mysticisme amoureux dans le film qui est totalement bouleversant. Et moi, je dirais que le film est deux fois sublime. S'il faut choisir, moi aussi, je prends la deuxième version, mais la première était vraiment déjà géniale. Ce qui est beau dans la deuxième, c'est qu'il radicalise.
J'avoue que je ne connaissais pas la première.
Ouais.
Donc, il faut commencer par voir la deuxième, si on en
a. Oui, je pense que je connaissais la deuxième.
Effectivement, la deuxième, elle radicalise cette manière de dévaler une pente qui mène de la comédie jusqu'au mélodrame, ce qui était comme déjà le cas de la première version. Mais là, dans la deuxième version, il en fait vraiment un film burlesque avec un jeu d'emboîtement des espaces, de corps qui se cognent. Il part vraiment de ça, du pur comique, pour aller vraiment au mélodrame sublime. C'est vraiment un film, un chef-d'œuvre absolu.
Alors, rapidement, j'ai regretté d'avoir vu la première version que je ne connaissais pas après la deuxième, parce que je la trouve beaucoup moins intéressante. Et je voulais pas qu'elle m'enlève la magie de la deuxième. C'est aussi un de mes films préférés. Et dès que j'ai terminé de le voir, je pourrais le revoir le lendemain, ça ne poserait pas de problème. C'est-à-dire, Cary Grant, je sais qu'il va bouger comme ça, je l'attends, et je sais que c'est très bien, il va ouvrir la porte, etc. C'est un film, je trouve que cette idée de la noblesse du sentiment amoureux, elle rejaillit même sur leurs ex, qui se comportent impeccablement. Tout le monde est formidable. Donc, ils le mettent à une telle hauteur, et c'est eux qui se filment des interdits, se posent des interdits. Nous nous retrouverons quand on sera capable d'avoir gagné notre vie. C'est pas le monde extérieur. Et ces deux personnes abîmées, ce que j'aime bien, c'est que souvent, on pense que les histoires d'amour doivent être chez des gens très jeunes. C'est chez des gens abîmés. Ils ne font pas d'illusions l'un sur l'autre. Ils sont plus ou moins des parasites.
De personnes voilà. Toutes jeunes.
Ouais. Elle et lui, Léo Macaré, si vous voulez la version, la première en noir et blanc de 39, c'est chez Lobster. Et sinon, si vous voulez la version plus connue de 57, en couleur, eh bien, c'est sur Canal VOD. Allez, on termine rapidement avec L'homme qui voulut être roi de John Huston, sorti en 75, adapté de la nouvelle de Kipling avec Sean Connery, avec feu Sean Connery, Michael Caine et Christopher Plummer qui jouent Kipling, je parle de Plummer, hein, et qui ressort en version restaurée chez Wildside, Blu-ray, DVD, plus un livre de Samuel Blumenfeld, un film totalement fou qui se déroule aux Indes. Comme on disait à la fin du 19e siècle, Daniel, c'est Sean Connery, et Pitchy, c'est Michael Caine, deux anciens militaires et francs-maçons britanniques très mal intentionnés, partent pour le Kafiristan où ils montent une armée et où Daniel est sacré roi avec la ferme intention d'ailleurs de fonder une dynastie. Les décors sont signés Alexandre Troner, qu'on retrouve d'ailleurs chez Billy Wilder. La musique Maurice Jarre, c'est du grand spectacle loufoque, tourné d'ailleurs en partie au Maroc, ce qui fait que au début du film, je me disais, mais non, je suis pas en Inde, là, je suis à Marrakech, je suis place Gemma Elfna, et ça crée quand même un trouble visuel assez étonnant. Malheureusement, je vous demande d'être rapide sur ce film, Jean-Marc.
Je veux bien passer mon tour, moi je trouve ça consternant, je trouve ça d'une lourdeur parabolique, c'est vraiment du cinéma d'intention. Je trouve que la dimension de folie, elle est sans arrêt contenue par une sorte de ricanement perpétuel, vraiment j'aime pas du tout.
Et Michel ?
Oui, je sais que Huston n'est pas en cours dans l'école critique de Jean-Marc, c'est un chef-d'œuvre. un chef-d'œuvre du cinéma romanesque. L'opposition entre le Cockney Michael Caine avec son accent typique, son pragmatisme et puis l'idéalisme celte de Sean Connery, l'Écossais, est merveille. C'est en même temps une réflexion sur le colonialisme puisque les colonisés utilisent finalement les armes que leur ont apportées les Occidentaux.
C'est aussi
les
armes sur la franc-maçonnerie. Hein.
La franc-maçonnerie. C'est un film passionnant. C'est un thème cher à Huston, l'échec. Il a traité toute sa vie de l'échec dans Le Faucon Maltais, dans Le Trésor de la Sierra Madre, dans Moby Dick. C'est toujours le même thème qui revient. La quête qui n'aboutit pas. Et je trouve ce film d'une ampleur et d'une philosophie et d'une humanité absolument extraordinaire.
Camille, elle est du côté des Arocs ou du côté de positif ?
Des cahiers. Non, c'est un Huston que j'aime plutôt bien. Je trouve que Huston commence à devenir intéressant dans les années 70 avec Fat City, Jugeur la loi et ça. Même si bon, il a fait un grand film, c'est son dernier. Hein, on est bien d'accord, Les gens de Dublin, qui là où il arrête un petit peu de ricaner, un petit peu de faire de la camaraderie virile comme il a fait un peu toute sa vie. Mais L'homme qui voulut être roi est quand même intéressant. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je trouve que Huston a quelque chose de manque. Il y a comme ça chez Huston une forme de bouffonnerie, un peu comme chez Werner Herzog aussi. Il y a comme ça ça, ils filment des odyssées d'hommes qui à la fois se foutent un petit peu de ce qui de leur aventure et en même temps sont des colons qui assument l'empire et qui en même temps savent très bien que ils finiront par en crever. Et c'est, il y a une espèce de cynisme ballant comme ça qui rend Houston à la fois très antipathique comme manque l'est dans le film de Fincher et à la fois qui peut donner des choses intéressantes quand il arrête de filmer des romans type Moby Dick ou African Queen et qui filme des nouvelles parce que Kipling c'est une nouvelle et qu'enfin il trouve une forme de récit qui n'est pas trop bourrin et tout chrétien parce que parfois c'est tellement littéraire au mauvais sens du terme et littérateur Houston qu'on n'en peut plus mais là c'est assez décharné, les deux acteurs sont bien, enfin ça va quoi.
Même si, encore une fois, personne n'en parle, mais ce décor me trouble beaucoup.
Eva, Hassan II est remercié.
Ce film, hein. Je l'avais pas vu auparavant. J'ai dit, c'est quoi cette chose? C'est des gens juste pour leur plaisir. Hein. Ils vont aller prendre, devenir les rois d'un pays, un pays inviolé.
Enfin, il y en a un, les deux.
Un veut devenir roi, mais ils font ça, imaginaire, bien sûr, mais juste comme ça, pour le fun, en quelque sorte. Mais en même temps, c'est des sales types, ils peuvent tuer. Enfin, oui, c'est pas des canailles sympathiques. Il y a tous les registres. Il y a la franc-maçonnerie qui est là-dedans. Il y a des moments où c'est d'un kitsch. Inouï. Et il y a ce qui ressort, ça va être la vitalité du duo, des deux acteurs qui est formidable, et c'est le plaisir que prend Houston. Mais je regarde ça comme un truc et je ne sais pas par quel bout le prendre. Et il y a des moments où ça tombe totalement à plat et c'est d'un kitsch absolu.
Oui, Michel, oui, le dernier mot.
Une phrase de connerie, nous allons apprendre à ces sauvages comment tuer comme des civilisés. Formidable. Mais pour Jean-Marc, je te réconforte, Truffaut et Romère détestaient Houston. Tu n'es pas le seul.
Bah, les cahiers, oui, n'aimaient pas Houston. Ouais,
L'homme qui voulut être roi, mais c'est donc une occasion aussi de John Houston de revoir un Sean Connery différent de celui qu'on voit quasiment toutes les semaines pour l'instant avec la ressortie des James Bond. Et c'est donc une réédition très bien soignée, il faut dire, chez Wild Side. Allez, avant de vous laisser conseiller, je vous rappelle qu'il ne vous reste que quelques heures, jusqu'à minuit, pour élire les lauréats du 31e prix des auditeurs du Masque et la Plume. Il vous suffit de nous écrire les titres des deux films français et étrangers que vous avez préférés cette année sur le site du Masque et la Plume franceinter.fr à la page courrier ou réagir et nous décernerons le prix, votre prix, en début d'année prochaine. Allez, un conseil d'Eva.
Un livre que je trouve très chouette, les recettes des films du studio Ghibli. Et c'est une idée très très chouette. Par exemple, il y a le bento de Totoro. Et alors, c'est illustré avec des illustrations de films, mais aussi pour les recettes. Et chaque fois, ça rend compte. C'est pour des parents faisant probablement la cuisine avec leurs enfants. Ça leur permet de resituer ces recettes par rapport au film. Il y a pas mal de films de Miyazaki. Il y a aussi l'assiette de fruits de mer et son riz du tombeau des Lucioles. Et c'est un film tellement triste que ça permettrait un film de Takahata, que ça permettrait peut-être de dédramatiser le film si on fait la recette après.
Michel, ton conseil, Michel, dont la revue Positif fait sa une sur le film de Rasoulof qui sortira.
Qui sortira plus tard.
J'espère.
Un très grand film iranien sur
voilà,
la peine
à
de
la
mort.
Fin du mois de juin. Le conseil de Michel.
Alors, c'est un livre chez Capricci, Cassavetes par Cassavetes, de Ray Carney. C'est une traduction, un livre extraordinaire. C'est un album, mais c'est beaucoup plus qu'un album. C'est non seulement une série de photos très belles, etc., mais aussi des entretiens avec Cassavetes, comme le titre l'indique, et des commentaires par l'auteur sur ce que dit Cassavetes. Donc c'est un livre indispensable qui a pris, je crois, 11 ans de travail à son auteur.
Le conseil de Camille.
Alors, un coffret de 10 DVD sur, on parlait d'Elle et lui, l'ère pré-code, Forbidden Hollywood. Irène Dunne, qui joue dans le premier Elle et lui, vient aussi de cette ère du pré-code. Le code, c'est le code Hays qui a, à cause des ligues de vertu, inscrit des lois. On n'avait pas le droit de s'embrasser plus de 30 secondes à l'écran, de dormir dans le même lit, même si on était marié. Enfin, ça, c'est ce qui est arrivé après 34. Mais entre, disons, le début du parlant et 33, il y a comme ça une série de films très immoraux avec des femmes de mauvaise vie qui est alcoolique, fille-mère, à qui il arrive des malheurs. Et ça a donné des films très beaux avec des actrices qui ont fait de la comédie par la suite, comme Irene Dunne, comme Barbara Stanwyck, comme Claudette Colbert. Et là, c'est chez Warner Bros. Donc, il y a 10 films avec les actrices que je vous cite.
Je précise, Camille, que ça a été déjà conseillé à la fin du Masque et de la Plume par une de tes consoeurs, ce qui veut dire que...
Mais quand
il y a 15 jours.
Ce
qui veut dire que c'est aussi un bon signe. Mais c'est très bien. Jean-Marc, pour finir.
Un film qui avait été retiré de l'affiche après un jour d'exploitation et qui devait revenir cette semaine et dont la sortie est là assez différée, mais que je soutiens parce que c'est un de mes films préférés de l'année, c'est Garçon chiffon, qui est le premier long métrage réalisé par l'acteur Nicolas Maury. C'est un acteur extrêmement qui a une qualité lunaire d'étrangeté, de poésie, de drôlerie, dont il a totalement réussi à trouver la traduction par la mise en scène de cinéma. Et Garçon chiffon est un film aussi étonnant et poétique que le jeu de Nicolas Maury.
Tous ces conseils, vous les trouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup Eva Bétan, Camille Nevers, Jean-Marc Lalanne, Michel Simon pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lysiane Selab. Et ce soir au théâtre de l'Alliance française à la technique, il y avait, et je les remercie, Valérie Lavalard ainsi que Nicolas Depagraf pour une réalisation aux petits oignons signée Xavier Pestugia. Dans une semaine, on parle encore de cinéma. Je vous dis à tous et à toutes très joyeux Noël et à dimanche prochain sur France Inter, évidemment. Et après le journal, vous retrouvez Stéphanie Duncan pour Autant en emporte l'histoire.